France Info.
Les informés de France Info, quel Donald Trump ne pourra jamais participer. Il mérite même la palme du désinformé du jour et on ne sait si on doit en rire ou en pleurer. La scène se passe dans le bureau ovale. Le président américain reçoit la prix Nobel de la paix, Nadia Mourad, qui lui raconte le calvaire des Yazidis en Irak. Elle demande l'aide des États-Unis. Elle raconte que sa mère et ses 6 frères ont été tués. À quoi Donald Trump répond en demandant « Et ils sont où désormais ?» avant de poser cette question.
You had the Nobel Prize. They gave it to you for what reason? You can explain.
Et vous avez eu le prix Nobel de la paix. Pourquoi vous l'ont-ils donné? Vous pouvez m'expliquer. Ça serait trop long, cher Donald. On arrête là. Ce soir, nos informés vont parler retraite. L'âge de départ est-il de fait repoussé? Retour aussi sur les grivoiseries du candidat LREM à la mairie de Paris. Et question sur les décorations policières spéciales gilets jaunes qui font polémique. Et nos débatteurs en savent beaucoup plus que Donald Trump. Bonsoir, Jeannick Halimi.
Bonsoir.
Vous êtes grand reporter au Parisien, spécialiste politique. Bonsoir, Laure Breton.
Bonsoir.
Vous êtes au service politique de Libération. Bonsoir, Gévit Tambert.
Bonsoir, Frédéric Carbone.
Vous complétez ce trio de journalistes politiques. Vous êtes, vous, à France 2. Et Jean-Daniel Lévy est également avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous dirigez le département politique et opinion chez Harris Interactive. Et on commence donc avec l'acte 1 de la réforme des retraites. Jean-Paul Delevoye présente ses préconisations, système par points universel à la place des 42 régimes. Là, les syndicats, globalement, peuvent être partants, mais aussi le bonus-malus pour inciter à partir à la retraite à 64 ans. Et là, à l'image de Frédéric Sève de la CFDT, ça ne passe pas vraiment.
Aujourd'hui, vous avez un âge légal, 62 ans, vous ne pouvez pas partir avant 62 ans, et puis vous avez un âge du taux plein, celui auquel vous bénéficiez d'une retraite à taux plein. Ça existe déjà, cette distinction. Mmh. Par contre, la nouveauté qu'introduit le haut-commissaire, c'est de dire bon, on va faire le même âge du taux plein pour tout le monde. Que vous ayez commencé à travailler tôt ou que vous ayez commencé à travailler tard, vous aurez le même âge du taux plein. A priori, ceux qui commencent à travailler tôt, si on leur dit le taux plein ça, pour vous sera 64 ans au lieu de 63, par exemple, ce qui peut être le cas aujourd'hui, ou 62, a priori, vous êtes perdant.
Voilà, Jeannick Halimi, est-ce que tout ça, ça ne veut pas dire que, de fait, l'âge de départ à la retraite, eh ben, il est repoussé, il est retardé? Est-ce que ça serait pas plus simple de le dire directement?
Non.
Non,
non, parce que c'est pas le cas, parce que de le dire directement voudrait dire que c'est de la réforme en cours, hein, en tout cas plutôt qui est projetée, pardonnez-moi.
Bien sûr, parce qu'on est au début. Hein.
Voilà, ouais, absolument. N'aurait qu'un impact et qu'un objectif et qu'une signification financière. Mmh. Que ça voudrait dire que c'est uniquement la réforme Touraine, donc conçue et programmée, hein. Voilà, sous le quinquennat de François Hollande, socialiste, donc qui était destinée à être mise en œuvre, réfléchie, examinée, etc. Bon, de ce point de vue-là, ce n'est pas tout à fait le cas, puisque cette réforme, je ne vais pas me faire loin de là, hein, le porte-parole du gouvernement, mais cette réforme est ô combien plus complexe, ô combien plus ambitieuse, ô combien plus compliquée aussi à financer. Maintenant, de fait, vous avez raison, moyennant certaines variables qui, justement, devraient être destinées à la négociation avec les partenaires sociaux. C'est vrai que concrètement, et c'est là où je vous rejoins tout de même, la durée de cotisation devrait effectivement augmenter. Voilà.
Et peut-être le risque de se focaliser là-dessus, parce que vous avez raison, il y a infiniment plus de choses dans cette réforme.
Absolument.
Laure Breton, c'est que cette question de l'âge de la retraite, elle ne figurait pas dans le programme d'Emmanuel Macron. Par exemple, quand Emmanuel Macron était candidat, il disait l'âge de la retraite, on ne le repoussera pas. Hein.
Alors en plus, il n'était pas candidat, puisqu'il était, c'était surtout entre les deux tours de la présidentielle. Donc on se souvient des propos assez apaisants, finalement, qu'il portait à ce moment-là. Il disait qu'il n'y aurait pas de mesure d'âge et qu'il ne toucherait pas à l'âge de la retraite. Il disait aussi que les systèmes, le financement des retraites était assuré. Il disait disposer de chiffres pour que le système soit à l'équilibre assez longtemps pour que pendant son quinquennat, on ne touche pas à l'âge de la retraite. Je me dis que finalement, c'était assez bien fait entre les deux tours. Ça rassurait une partie de l'électorat, d'un électorat âgé. Ça rassurait les retraités. Maintenant, on sait que les prévisions du COR, le Conseil d'orientation des retraites, étaient pas si positives que ça. Donc en fait, il s'est retrouvé coincé assez rapidement par cette promesse de campagne. Et on a vu pendant 18 mois Delevoye essayer de déminer, essayer de faire advenir cette réforme. Et on a vu aujourd'hui des mots apparaître, des mots nouveaux. Mmh. On parle plus d'âge pivot, on parle d'âge d'équilibre, on parle plus de décote, on parle de, je l'ai noté parce que c'est compliqué, de taux de rendement inférieur. Donc en fait, on essaye de quand même d'amortir le choc d'un point de vue sémantique.
Mmh. Mais avec le risque, j'invite en mer, que quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup.
Oui, c'est flou. En même temps, cet âge, cette idée que la retraite doit rester officiellement, légalement à 62 ans, c'est une sorte de totem. C'est un petit peu comme l'ISF pendant longtemps, c'est un petit peu comme la GPA. Il y a des choses comme ça qu'on ne doit pas toucher. Alors pour le symbole, on va dire, eh bien oui, la retraite restera à 62 ans. Mais tout le monde a compris qu'à 62 ans, on n'aura pas sa retraite à taux plein.
Et de fait, la plupart des gens partent au-delà déjà de 62 ans.
De fait, et je dirais même que tout le monde a intégrer que l'espérance de vie s'allongeant, la durée de travail doit s'allonger. Peut-être Monsieur Lévy me contredira, mais je crois que dans l'opinion, cette idée-là est rentrée dans les têtes, en tout cas majoritairement, c'est qu'aujourd'hui, il faut peut-être travailler plus longtemps parce qu'on vit plus longtemps.
Ben, d'où la question, Jean-Daniel Lévy, si c'est rentré dans les têtes de l'opinion, pourquoi ne pas le dire ?
Parce qu'en fait, les mots ont leur sens. Parce que les mots ont leur sens déjà. En fait, si on reprend déjà la réforme des retraites de 2010 qui avait été initiée par Eric Woerth, on s'en rappelle, elle ouvrait tout un pan à la capitalisation. Mais quand vous prenez en fait la manière dont était présentée la réforme de retraite à l'époque, il était question, d'un point de vue initial, de sauvegarde du système de retraite par répartition. Et les Français pensent deux choses, c'est-à-dire qu'ils sont très attachés au symbole en tant que tel, ils sont très attachés au principe d'un point de vue général, même s'ils savent que la réalité qui va se découler derrière cela n'est pas forcément tout à fait en cohérence. Donc là, effectivement, on voit bien que le terme âge pivot ou équilibre, qui ne sont plus forcément âge légal, montre bien les choses. C'est-à-dire que l'âge légal, ça permet aux individus de partir à la retraite s'ils le souhaitent, même s'ils n'ont pas forcément la totalité de la rétribution à laquelle ils pourraient escompter. Et dans un même élan, ils ont bien compris que tendanciellement, de toute façon, il faudrait naturellement partir plus tard à la retraite, sachant que parfois, notamment de la part des catégories populaires, notamment de la part de celles qui ont une activité professionnelle qui leur apparaît comme étant difficile, celles-ci, dans un arbitrage temps-argent, préfèrent la notion de temps, quitte à partir plus tôt à la retraite et avoir un niveau de revenu qui soit moins élevé.
Alors, on reprend la conversation dans une minute, le temps de dérouler les grands titres de l'actualité à 20h10 avec vous, Solène Cresson.
Des médailles qui font grincer des dents. 9000 policiers et gendarmes doivent être décorés par le ministère de l'Intérieur. Mais des commissaires qui font l'objet d'une enquête pour violence sur des gilets jaunes sont dans la liste. Ceux notamment qui ont participé à la charge qui a blessé la manifestante Geneviève Legay à Nice. Le nettoyage des écoles aurait eu lieu, incendie ou pas. Le premier adjoint à la mairie de Paris rassure après les révélations de Mediapart qui affirme que des taux de concentration en plomb étaient trop élevés. La ville de Paris assure qu'il y aura de nouvelles mesures et que les résultats seront rendus publics. Le gouvernement va mener un audit pour vérifier si le repreneur de l'ancienne usine Whirlpool d'Amiens a utilisé l'argent public correctement. WN, le repreneur de Whirlpool, fait face à la colère et à l'inquiétude des salariés. L'entreprise est dans une impasse de trésorerie. Pas de lien entre les algues vertes et le décès d'un jeune ostréiculteur dans la baie de Morlaix, affirme le procureur de Brest. D'après les résultats d'un laboratoire spécialisé, l'autopsie du corps avait révélé que de l'eau se trouvait dans les poumons de la victime de 18 ans. Et puis encore une journée en jaune demain pour Julien Alaphilippe. Après la première étape de montagne dans les Pyrénées aujourd'hui, je me ferai le plus mal possible pour défendre le maillot jaune avec honneur, a déclaré le cycliste. Demain, il va devoir le garder sur une épreuve de contre-la-montre individuelle à Pau.
France Info. 20h-21h, les informés. Frédéric Carbone.
La réforme des retraites, donc l'acte 1, la suite, elle va être pendant de longs mois sans doute. Évidemment, on s'est focalisé sur cette question du bonus-malus à 64 ans parce que, voilà, hein, le symbole, il est là. Mais je vous rassure, Yannick Halimi, vous qui parlez du reste de la réforme qui est complexe, on va y venir parce que l'essentiel, le cœur de la réforme, c'est le passage à un système, un régime universel. Plus des 42 régimes comme aujourd'hui, un régime universel. Tout le monde traité de la même manière, un point vaut un point pour tout le monde. Là, par contre, avec les syndicats, autant ils sont vent debout contre le bonus-malus, là, il y a matière à discussion, sans doute, avec
oui,
les syndicats.
Oui, il y a matière à discussion. Alors, vous avez raison de le rappeler, cette réforme de la retraite, qui ne touche pas la répartition, entendons-nous bien, mais cette réforme est un des marqueurs les plus importants de la campagne et du programme de réforme, justement, d'Emmanuel Macron. Et l'idée générale et le principe général, mais qui se vérifie dans un tas d'autres réformes, celle de la fonction publique notamment, c'est de supprimer tous ces fameux régimes spéciaux, en l'occurrence ceux de la retraite dont vous parliez, oui, pour mettre, entre guillemets, tous les Français à égalité et puis rétablir cette sorte de confiance et mettre fin à une sorte d'état de défiance latent et permanent, voilà, entre les Français, entre les catégories de Français, les groupes de Français, les fameuses corporations que voulait faire sauter Emmanuel Macron lorsqu'il était déjà dans la commission Attali et lors de sa loi Macron du temps de Manuel Valls et de François Hollande. Mais juste pour répondre et terminer par la question qui était aussi la vôtre, c'est-à-dire les syndicats, oui, la CFDT, on le sait, sur le principe, attention, hein, la CFDT était totalement favorable à cette retraite des points, également au nom de cette égalité entre tous les Français. La CGT, les moins, force ouvrière, est plus dubitative. Et c'est vrai que là, pour le coup, c'est un champ politique et de négociation qui peut s'ouvrir avec les syndicats. Et c'est pour cette raison que le gouvernement va prendre aussi une partie du temps pour discuter entre Delevoye, la ministre Agnès Buzyn, et puis l'ensemble des organisations syndicales.
Agnès Buzyn, qui, je le signale, sera sur France Info demain matin, l'invité à 8h30, champ moins miné, j'invite Amber, que le bonus malus, celui-là.
Je pense même que c'est une donnée, c'est un pari que fait le gouvernement, c'est que cette notion d'égalitarisme, cette notion de fin des privilèges, c'est quelque chose qui imprime dans l'opinion, qu'on a pu voir à des degrés divers dans le mouvement des Gilets jaunes, et l'idée de mettre tout le monde sur un pied d'égalité, même si, attention, des régimes spéciaux vont demeurer pour les professions dites régaliennes, par exemple les militaires, les policiers. Donc entre le principe et la réalité, il y aura évidemment des degrés, mais là-dessus, le gouvernement pense vraiment tenir le bon bout, et c'est vrai que la réaction, on a entendu tout à l'heure un représentant de la CFDT, mais j'ai aussi entendu Laurent Berger dans la journée, et lui, il donnait quasiment déjà son quitus à la réforme en expliquant que désormais chaque
hors
point...
Hors les 64 ans, hors le bonus.
Hors les 64 ans, mais sûr, sur le principe de la retraite par point, eh bien il disait chaque heure travaillée fournira des droits, et ça on est pour. Donc c'est plutôt bien engagé, au moins sur ce point.
Je vois Jean-Daniel Lévy hocher la tête. Oui, l'opinion publique, cette question-là, elle est d'accord, c'est une forme de réponse aux Gilets jaunes, d'une certaine manière.
D'une manière générale, dès qu'on parle d'égalité, en général en France, on a gagné pratiquement la bataille politique. Hein, voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a eu quand même plusieurs séquences. Hein. On peut se rappeler 1993, de la réforme Balladur, qui était passée, on va dire, relativement inaperçue après...
Bah oui, en plein été,
et surtout, en fait, après les élections législatives, ce qui est aussi, en fait, a quand même son importance. 95, on se rappelle des mobilisations qui avaient pu exister. Là, plus récemment, on voit bien, en fait, qu'on est face à des Français qui aspirent de plus en plus à voir la notion d'égalité, une notion d'égalité qui amène à dire que, parfois, les fonctionnaires bénéficient de conditions qui sont des conditions plus favorables que la moyenne des Français, notamment ceux qui travaillent dans le privé. À ce titre-là, la réforme de la SNCF qui s'est déroulée il y a un peu plus d'un an est tout à fait illustrative, c'est-à-dire qu'on n'était plus du tout dans le même registre que celui qui pouvait exister en 1995, avec le statut des cheminots qui a été clairement mis en avant comme étant la pierre angulaire de la réforme de la part du gouvernement, et que ça n'a pas suscité d'émotion nette de la part des Françaises et des Français en disant au nom de l'égalité, il est normal entre guillemets que les cheminots aient pas forcément un statut qui soit un statut de privilégié, en tout cas singulier par rapport aux salariés du privé, et qu'ils soient amenés à travailler plus, ce qui n'était absolument pas concevable il y a de cela une vingtaine d'années. Donc on voit bien la vraie évolution qui se passe d'un point de vue d'opinion.
Ça veut dire, Laure Breton, que ce sera la mère des réformes de la rentrée prochaine, comme la SNCF a été la mère des réformes de l'an dernier, et que là, le gouvernement reprend le fil de ces réformes?
Alors, à la rentrée, je ne sais pas, parce qu'on a quand même un gros problème d'embouteillage,
de calendrier.
D'embouteillage parlementaire. En plus... Jean-Paul Delevoye a dit qu'il avait le droit, enfin qu'il allait reconsulter les partenaires sociaux. Je pense qu'on est plutôt sur quelque chose qui va s'égrener pendant tout l'automne et pendant tout l'hiver.
Je parierais même pour quelque chose après les municipales.
C'est un point sur lequel nous viendrons évidemment.
Mais ce qui est sûr, c'est qu'on rentre dans l'acte 2. L'acte 2 théorisé par Emmanuel Macron et par le Premier ministre. Et ça, clairement, le moment où ils vont décider de le lancer, c'est l'acte 3 social. Il a toujours dit Emmanuel Macron qu'il allait avancer dans les réforme. On a eu huit mois là qui ont été complètement polarisés, anesthésiés, et là il reprend la marche des réformes reprend. Est-ce que ça passe avant les municipales, est-ce qu'on braque un peu plus une partie des retraités, des futurs retraités? Je ne sais pas, mais je sais que.
Oui, Yannick.
D'un point de vue parlementaire, c'est impossible à tenir.
D'un point de vue parlementaire,
probablement même
façon,
avant les municipales.
Effectivement, c'est prévu la discussion et peut-être le début de l'examen par l'Assemblée est prévu avant les municipales, mais certainement pas la finalisation de cette réforme. Maintenant, pardonnez-moi, quand vous dites le tournant social, on peut en reparler. Hein, ça. Mais à travers la réforme des retraites, c'est moins sûr que ça apparaisse comme un tournant social, bien que
pour son électorat et pour tenir les promesses qu'il avait dit,
qu'il avait
dans son programme. C'est tout ce que c'est comme ça qu'il l'avait théorisé.
Absolument. Ah non, mais absolument. Donc
non, les syndicats ne seront pas d'accord.
Ce n'est pas un tournant. C'est garde le cap. Il fait, en tout cas, il prévoit de faire ce qu'il a dit de faire. Et au-delà de ce que nous disions tous sur ce principe d'égalité qui prévaut comme principe générateur de cette réforme de suppression des régimes spéciaux, il y a quand même tous les éléments que vous soulignez, c'est-à-dire probablement, même si c'est pas acté, le report de l'âge de la retraite, l'allongement de la durée de la cotisation et vraisemblablement, une baisse dans les années à venir des pensions par rapport aux pensions aujourd'hui. Donc je ne suis pas sûre que tout de même l'appréciation par l'opinion publique, même si elle est globalement d'accord, mais l'appréciation de cette réforme soit une réforme sociale. Et d'ailleurs, on voit déjà la France Insoumise et certains syndicats, dont la CGT, préparer une mobilisation pour la rentrée ou pour le moment où la réforme sera véritablement examinée.
Mais là aussi, pareil, peut-être j'invite Amber à une minute, le Front syndical, là aussi, c'est jouer sur syndicats réformistes face à d'autres syndicats, comme pour la SNCF, en gros.
Si on s'en tient aux deux premières années du quinquennat Macron, il y a les réformes qu'on a vues venir, la loi travail d'abord, ensuite la réforme de la SNCF, et il n'y a pas eu de mouvement social. Ensuite, il y a eu les révoltes qu'on n'a pas vues venir, sur la taxe sur le carburant, les gilets jaunes, et tout ce qui s'en est suivi pendant 6 mois. Donc là, si j'ose dire, il ne faut jamais faire de pari sur l'avenir, mais cette réforme est tellement cadrée, tellement organisée, y compris au calendrier. J'aurais juste apporté une précision. Il faut savoir qu'en septembre, on va discuter, excusez du peu, de la loi sur la bioéthique avec la PMA, du gaspillage alimentaire, qu'ensuite il y a le budget et qu'ensuite il y a la fenêtre des municipales. Donc même techniquement, les retraites ne seront pas discutées avant le printemps. Donc le mouvement social, il va avoir quand même du mal à se créer à partir de rien pour l'instant.
D'un calendrier aussi étendu également. On reprend la conversation après l'info. 20h20, les grands titres. Solène Cresson.
De l'hypocrisie, une absence de courage, le président de la commission des finances et député Les Républicains Éric Woerth tacle le rapport Delevoye sur la réforme des retraites. Pour lui, c'est un système par points, mais surtout des points d'interrogation. Parmi les propositions, instaurer un âge d'équilibre à 64 ans pour le départ à la retraite, avec un système de surcote et de décote. Un an et demi après leur départ, des zadistes opposés au projet d'enfouissement de déchets nucléaires à Bure dans la Meuse ont réinvesti le bois Le Juc, entre 20 et 30 personnes selon la préfecture. Pour l'instant, les gendarmes ont interpellé 2 personnes. Le gouvernement ouvre la voie à de nouvelles salles de shoot. Un arrêté publié aujourd'hui prévoit de raccourcir la durée minimum d'ouverture de 3 à 1 an, ce qui permet d'en ouvrir d'autres, se réjouissent les associations. Les salles de consommation à moindre risque vont aussi ouvrir leurs portes aux fumeurs de crack. La capitaine du Sea-Watch en appelle à l'Union européenne. Carola Rackete demande à Bruxelles de s'organiser pour faire débarquer les migrants en mer et éviter de mettre les ONG en situation de blocage. Ce matin, elle a été entendue par la justice italienne après avoir accosté de force à Lampedusa. Et puis des mesures de sécurité dans plusieurs villes de France demain soir en vue de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. L'Algérie affronte le Sénégal et par crainte de débordement, Paris ou Marseille mettent en place le même dispositif que pour le 14 juillet. À Montbéliard, couvre-feu pour les mineurs de moins de 14 ans non accompagnés.
France Info. 20h, 21h. Les informer.
Frédéric Carbone.
Allez, la réforme des retraites en version strictement politique. Après, on a déjà vu largement la question du calendrier avec nos invités qui pensent que tout ça ne passera pas avant les municipales. Et puis, il y a la question du positionnement de l'opposition. Enfin, la droite, en tout cas, parce que, après tout, c'est sans doute une réforme plutôt populaire dans l'électorat de droite. Solène Cresson évoquait dans les titres Éric Woerth, député Les Républicains, président de la commission des finances à l'Assemblée. Et voici ce qu'il dit.
La meilleure façon de les inciter à travailler plus longtemps, c'est de repousser l'âge de la retraite. Mm-hmm. C'est pour ça que c'est hypocrite. C'est qu'il faut un peu de courage pour faire ça. Si vous avez des Français à 62 ans qui partent nombreux avec un système très décoté, bah vous en ferez des petits retraités, des gens avec des petites pensions qui auront du mal à s'en sortir. Vous serez obligé de les rattraper par des minimums vieillesse que vous augmenterez. Donc non, un système par répartition, c'est aussi un droit d'entrée donné par la génération qui paye. Et le report de l'âge de la retraite, le fait de contourner un sujet aussi important, est au fond soit une dose de manque de courage, soit d'hypocrisie.
Voilà, Jean-Daniel Lévy, argument d'Éric Woerth, député Les Républicains, c'est vous êtes à mi-chemin, vous n'avez pas le courage d'aller au bout. J'imagine que la majorité va lui répondre, bah, fallait le faire avant. Quoi.
Non seulement la majorité, mais les électeurs en fait. Hein. C'est, non, mais ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que c'est très clairement, et on l'a vu d'ailleurs au cours des dernières élections européennes, on voit bien dans les codes de confiance qui sont aujourd'hui exprimés à l'égard de l'exécutif et notamment du président de la République, c'est qu'on est globalement face à des électeurs de droite qui disent quand même beaucoup de réformes, beaucoup d'orientations, beaucoup de postures qu'on attendait d'une manière générale de la part de la droite et que celle-ci n'a pas su porter notamment au cours de la période de Nicolas Sarkozy et avec une difficulté à pouvoir être en désaccord avec les principales orientations qui sont données de la part du président de la République et de la part du Premier ministre et évidemment dans le cadre des différentes réformes. C'est vrai que d'une manière globale, il y a la perception que sur la posture, qui est une posture de fermeté, et sur les orientations, qui sont des orientations qui donnent à voir qu'il y a des réformes véritablement qui sont entreprises, globalement, ça plaît assez nettement à cette frange de la droite qui dit au moins il fait des choses, que ce soit ou que ça ait été des éléments qui étaient indiqués dans le cadre du contrat présidentiel, et même lorsque ça en sort, on peut rappeler d'ailleurs que Notre-Dame-des-Landes n'était pas du tout dans le contrat présidentiel, que le président de la République a décidé d'en faire un enjeu pour lui, en fait, et qu'il a décidé, on s'en rappelle, de ne pas d'évacuer la ZAD, etc., et que ça allait à l'encontre de ce qu'il avait indiqué dans le cadre de son programme présidentiel, mais que pour autant, ça a été extrêmement apprécié de la part des Français, et surtout de la part de l'électorat de droite.
Donc ça pourrait être pareil pour vous, pour cette réforme de retraite. Vous suggériez tout à l'heure, Laure Breton, que oui, pour son électorat, cette partie en tout cas de l'électorat, sans doute c'était bien, mais curiosité, est-ce qu'à un moment ça va être totalement endossé par le gouvernement? Est-ce que ça sera toujours Jean-Paul Delevoye ou à un moment ça sera la réforme d'Agnès Buzyn et quand aussi il y a une...
Ce qui est assez drôle, c'est que finalement la droite et la gauche, et c'est un peu le cas depuis deux ans, c'est la droite et la gauche utilisent les mêmes mots, parce qu'aujourd'hui tous les socialistes dénonçaient l'hypocrisie de cette réforme. Donc la droite dit l'hypocrisie parce que vous n'allez pas jusqu'au bout, la gauche dit l'hypocrisie parce que vous ne dites pas que vous allez jusqu'au bout, donc on ne peut pas s'opposer. Et parce que vous y touchez sans avoir l'air d'y toucher. Je ne sais pas, je suis assez d'accord avec Jeff, jusqu'à ce que le texte soit d'abord définitif. On est dans la concertation, il y a un nouveau round qui s'annonce, on a des choses qui peuvent être... Le gouvernement fait bien attention de dire que tout ça c'est des pistes et que ça n'est pas le texte futur. Et on peut imaginer que ça dégonfle la contestation sociale, ou en tout cas ça ne l'empêche de la prendre. Et on peut imaginer aussi que dans ce temps-là, les oppositions vont avoir du mal à capitaliser dessus. Donc ils ont encore un an tranquille, oui, complètement
d'autant
tranquille.
D'autant, Yannick Halimi, qu'on ne va pas manifester contre Jean-Paul Delevoye. Enfin, voilà, tant que c'est essentiellement la figure de la réforme, bon.
Non, sauf qu'il pourrait avoir, par exemple, un mini-remaniement à la rentrée, et que Jean-Paul Delevoye pourrait, avec un titre ou un autre, rentrer au gouvernement aux côtés. Ça se disait ces dernières
semaines. Ça se disait déjà.
Avant de Rugy, donc il pourrait avoir, Jean-Paul Delevoye, un poste plus officiel auprès de la ministre Agnès Buzyn. Donc là, c'est pour répondre un peu à votre question d'ordre formel. Maintenant, sur la droite, la gauche, je pense que Éric Woerth aurait intérêt à ne pas faire de la surenchère, si je puis dire, parce que là, je rejoins ce que vous disiez, Laure, tout à l'heure, c'est que cette réforme qui, fondamentalement, quand même, malgré tout, la réforme des retraites a du mal à passer pour une réforme sociale, malgré l'appellation de cette réforme qui est de réforme de la retraite et des nouvelles solidarités. On ne va pas rentrer dans le détail, mais il y a pas mal de dispositions pour les veuves, pour les pensions de reversion qui sont plus favorables qu'aujourd'hui, qui seraient plus favorables qu'aujourd'hui. Il n'empêche, pour terminer, si la droite continue à faire de la surenchère, cette réforme va finir par apparaître comme terriblement sociale. Et en revanche, sur le cap social en tant que tel du gouvernement, je ne pense pas qu'il mise tout de même, ou qu'il ait misé là-dessus pour donner rosir, on va dire, cette partie de son quinquennat.
Plutôt parler à l'électorat de droite.
Il n'empêche quand même que ce virage, entre guillemets, social pourrait plus venir de tous les aspects sociétaux qui font partie aussi du programme et présidentiel et parlementaire, notamment avec la réforme de la PMA.
Oui, la loi bioéthique.
Cette réforme va probablement passer très facilement grâce au député de gauche.
Pour rester sur la réforme des retraites, Javier Tambert, à un moment, on entrera dans plus de détails. Vous n'êtes pas des spécialistes, moi non plus, économiques. Mais néanmoins, on voit bien, tout le monde le dit aujourd'hui, que le diable, il est dans les détails et que ce qui est 64 ans, le bonus-malus, là, maintenant, dans 10 ans, ça sera peut-être pas 64, ça sera 66. Que sur les points pareils, le point aujourd'hui vaut ça, qu'est-ce qu'il vaudra dans 10 ans? Donc plus on entrera dans les détails, plus ça sera aussi sans doute compliqué quand même.
C'est pour ça qu'on joue sur les virgules et l'hypocrisie. On ne sait pas vraiment qui est le plus hypocrite dans cette affaire, parce que lorsqu'Éric Woerth, qu'on entendait à l'instant, dit « mais le gouvernement ne dit pas franchement qu'il allonge le départ à la retraite », on en a parlé au début de l'émission, on a bien compris qu'il y aura désormais un âge d'équilibre, donc on joue sur les mots. Si aujourd'hui il est à 64 ans, peut-être demain sera-t-il à 65 ans. Je crois que cette idée-là a été parfaitement intégrée dans l'esprit des gens, et que cette réforme, peut-être justement, elle prévoit un glissement progressif et qu'elle aura une souplesse. Là encore, il faut attendre des textes qui permettra justement ces ajustements.
La bascule, Jean-Daniel Lévy, étant quand on passe de la notion générale d'égalité à la logique strictement comptable, où là, ça peut être moins simple.
Oui, absolument. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que, d'une manière générale, les Français sont pas très bons en économie et ne font pas forcément.
Mais par contre, ils connaissent leur compte.
Ils connaissent leur compte, oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, ils prennent pas non plus leur calculette quand ils ont 45 ou 50 ans, en essayant de regarder précisément ce qui va se passer. C'est plutôt une idée un peu générale et souvent. Ils se rendent compte de la réalité de ce que peut être leur niveau de pension une fois qu'ils sont véritablement à la retraite. Et lorsqu'on les interroge avant, souvent ils ont tendance à surestimer le niveau de retraite et auquel ils pourraient avoir droit, et avec souvent une mauvaise surprise qui se produit au moment où ils prennent leur retraite.
Et bien peut-être au moins tout le débat qu'il y aura pendant des mois sur la réforme des retraites, ça incitera plus de pédagogie aux Français d'aller regarder ce à quoi ils ont droit exactement. Vous ne bougez pas, on se retrouve dans quelques minutes, le temps de dérouler l'info et puis évidemment d'abord la météo.
France Info Météo, avec le CIC, banque numéro 1 au podium de la relation client 2019. CIC, construisons dans un monde qui bouge.
Et les prévisions de Sébastien Léas.
Demain matin, on retrouvera les résidus de la perturbation d'aujourd'hui qui vont s'étendre entre le nord de la Nouvelle-Aquitaine, la Touraine jusqu'en Bourgogne, en Alsace et la Champagne-Ardenne. Ces nuages vont peu à peu se désagréger pour laisser place à un après-midi ensoleillé. En Alsace, les nuages resteront quand même prédominants et donneront quelques averses sur les Vosges. La Bretagne et la Normandie verront l'arrivée d'une nouvelle perturbation. Les nuages gagneront jusqu'à l'embouchure de la Loire et le Pas-de-Calais l'après-midi. Des pluies toucheront la Bretagne et la Manche et ces pluies deviendront même localement orageuses durant la nuit suivante. Partout ailleurs, soleil et belles éclaircies domineront la journée de demain. Il faut quand même s'attendre à quelques averses sur les hauteurs de la Corse et des orages vers le Mercantour. Demain après-midi, les températures seront comprises entre 26 et 35 degrés en général, avec 20 à 26 degrés près de la Manche.
Sébastien Léas, Météo France. Excellente soirée à tous, il est 20h30.
France Info.
De quoi ouvrez l'info.
Et c'est le retour d'Armel Balogog pour l'info.
La colère du syndicat Unité SGP Police après des révélations de Mediapart. Linda Kebab dénonce une provocation de Christophe Castaner. Elle en a marre de payer ses messages politiques. Le ministre de l'Intérieur a décoré 9000 policiers. Parmi eux, certains sont poursuivis pour des violences, notamment contre les Gilets jaunes. L'affaire baptisée les médailles de la honte fait polémique. Christophe Castaner qui lance une réforme du permis de conduire. Il annonce la première des 10 mesures dans le journal Le Parisien ce soir. Il sera possible de passer son permis dès 17 ans à partir de lundi. Ça concerne les jeunes en conduite accompagnée. Pour l'instant, ils ne peuvent passer l'examen qu'à partir de 17 ans et demi. Les critiques nombreuses de la future réforme des retraites. Le haut commissaire Jean-Paul Delevoye a dévoilé ses préconisations aujourd'hui. Un système universel de cotisation par points et un âge d'équilibre à 64 ans pour encourager à travailler plus longtemps. L'ancien ministre du Travail de droite, Éric Woerth, trouve ça hypocrite pour lui. Il faudrait plutôt repousser l'âge de départ à la retraite. Au contraire, c'est déjà trop pour la France insoumise et le Rassemblement national. Hassan Rouhani interpelle Emmanuel Macron. Le président français doit intensifier ses efforts pour sauver l'accord sur le nucléaire, selon le président iranien. Ils se sont entretenus au téléphone. L'Iran se dit déterminé à garder ouverts tous les canaux permettant de préserver cet accord. Il attend que les Européens satisfassent ses attentes. Simon Yates est très fier d'avoir remporté la 12e étape du Tour de France. Premier acte dans les Pyrénées aujourd'hui. Le Britannique s'est imposé au sprint à Bagnères-de-Bigorre, Fabrice Rigobert.
Meilleur jeune et septième du Tour de France il y a deux ans, vainqueur du Tour d'Espagne l'année dernière, lauréat de trois étapes du Tour d'Italie il y a un an, Simon Yates a signé à 26 ans le premier succès de sa carrière sur le Tour, au terme d'une journée parfaitement maîtrisée. Membre de l'échappée de 40 coureurs qui s'est constituée en début d'étape, le Britannique s'est détaché dans la dernière partie de l'ascension de la Hourquette dans 6 ans, avec l'Autrichien Gregor Mühlberger, rejoint dans la descente par le Basque Peyo Bilbao. Il a su contrôler ses rivaux dans le dernier kilomètre pour s'imposer avec plus d'une minute d'avance sur les autres attaquants du jour, dont le Français Tony Gallopin est presque 10 minutes d'avance sur le peloton maillot jaune. Un leader, Julien Alaphilippe, jamais menacé, assuré de partir en dernière position demain pour le contre-la-montre individuel de 27 km autour de Pau. Bannière de Bigorre, Fabrice Rigobert, France Info.
Et Julien Alaphilippe partira à 17h19 précise demain pour la 13e étape du Tour de France. Et puis la finale de la Coupe d'Afrique des Nations demain soir. Plusieurs villes craignent des débordements des supporters de football. Lyon, Marseille, Montbéliard, Paris prennent des mesures préventives. Dans la capitale, 2500 forces de l'ordre seront mobilisées dans le quartier des Champs-Élysées, des agents déployés aussi à Barbès et en Seine-Saint-Denis. 20h33 sur France Info, la suite des informés avec vous, Frédéric Carbone.
20h33 pile à la seconde, vous êtes parfaite, Armelle Balogo.
Merci.
20h, 21h, les informés.
Frédéric Carbone.
La deuxième partie des informés de France Info, toujours avec Jeff Wittemberg de France 2, Laure Breton de Libération, Jean-Daniel Lévy de l'Institut Harris Interactive et Jannick Halimi du Parisien. Et nous nous intéressons maintenant au parler cash de Benjamin Griveaux, le candidat de La République En Marche à Paris, le revendique d'ailleurs, il l'a dit dans des interviews récentes, mais il s'est quand même excusé auprès de ses rivaux qualifiés d'abrutis et d'ignares en politique. Et il y a un mot que je ne cite pas, parce que ça commence par P en quatre lettres. Enfin, bref, lors de conversations privées que Benjamin Griveaux ne nie pas. Benjamin Griveaux qui tient justement son premier meeting de campagne dans un théâtre parisien. Ce soir, Laure Breton, on peut faire mieux pour inciter au rassemblement?
Oui, puis surtout que la dernière réaction en date, puisque c'est cet article du Point qui retraçait une conversation privée effectivement du candidat de la majorité à la mairie de Paris, c'est que il se réclamait de Bertrand Delanoë. Oui. Et il disait que Bertrand Delanoë était d'accord avec lui, Paris se gagnait au centre, donc il fallait forcément viser l'électorat de droite. Et Bertrand Delanoë, j'ai eu la surprise de recevoir un SMS en fin d'après-midi, et en fait il est très très en colère, et il rappelle que, et d'abord il dit « je ne suis pas d'accord », et il dit « personne ne parle en mon nom ». Donc en fait, vous me parlez de rassemblement, c'est assez mal parti, dans le sens où ses adversaires internes n'ont pas vraiment apprécié la procédure de désignation, ont trouvé que c'était trop opaque. On ne sait pas encore ce que va faire Cédric Villani, il dit qu'il se prononcera en septembre. Les électeurs qui aimaient bien Delanoë, bah, je pense qu'il les a un peu braqués. Delanoë dit bah, « finalement je ne le soutiens plus » alors qu'il avait déjeuné avec lui en février.
Publiquement qu'il le soutenait, sans dire mais publiquement qu'il le soutenait. Il s'est montré à côté,
L'information du déjeuner avait fort opportunément fuité là aussi, donc je sais pas, on est vraiment très très loin, on commence juste, c'est le premier meeting de campagne ce soir, mais il a une équipe derrière lui qui est très soudée, avec beaucoup de ministres, avec des gens qui sont capables de lui donner une surface médiatique et de contrecarrer finalement toutes ces petites opérations peut-être un peu politiciennes, mais pour l'instant c'est un début de campagne qui est un peu foireux.
Et c'est cette façon de parler de Benjamin Griveaux, il le dit lui-même, hein, le parler cash, est-ce qu'il va devoir apprendre Jannick Halimi dans cette campagne aussi s'arrondir à ne pas être le Benjamin Griveaux qu'il est depuis quelques mois.
Oui, si campagne il y a, hein, finalement.
Il y aura quand même
un point d'interrogation. Bien sûr, elle aura lieu et je ne pense pas qu'elle va se terminer dans les semaines qui viennent. L'été va évidemment passer là-dessus, sauf, encore une fois, coup de théâtre. Sur les propos de Griveaux, oui, enfin, c'est pas non plus... Que les poissonniers me ne prennent pas à mal ce que je vais dire, mais enfin ils n'avaient pas non plus un discours voyez de battleur d'estrade et de c'était quand même quelqu'un qui savait se contrôler, même si c'est quelqu'un de plutôt chaleureux, expansif, donc il va falloir un qui se contrôle, mais deux au-delà de ce que vient de dire Laure Breton, sa surface politique et sa stature politique quand même se fragilisent terriblement, aussi bien bien sur les forces politiques ou ses alliés objectifs. On parlait de Lannoé, des troupes même au sein de la République en marche. On va pas revenir là-dessus sur notamment Villani qui le prend très mal. Je vais pas répéter ce que dit Laure Breton. Mais il y a aussi le fait qu'à l'Élysée, souvenons-nous, les porte-parole du gouvernement, un des premiers fidèles d'Emmanuel Macron, Benjamin Griveaux, on me dit, enfin, il se laisse dire que Emmanuel Macron est extrêmement décontenancé, mécontent de cet épisode. Paris n'est peut-être pas la France, mais Paris est la capitale, et c'est vrai que cette prise-là pour La République En Marche, et donc pour Emmanuel Macron, est plus qu'une symbolique, c'est un levier de pouvoir extrêmement important, et bien qu'il soit son ami, il ne faudrait pas qu'il recommence, parce que déjà, à l'Élysée, on commence à prendre un tout petit peu ses distances et qu'on va regarder froidement cet ami de toujours.
Et d'autant, Javid Amberg, que dans ce même article du Point, Emmanuel Macron est impliqué, il y a Bertrand Delanoë, mais il y a Emmanuel Macron qui, selon Benjamin Griveaux, l'aurait adoubé. Griveaux, ça serait joué avant même toute consultation.
Oui, on sait qu'ils sont très proches. Moi, je crois qu'il faut dire quand même plusieurs choses. La dent dure contre ses amis en politique, c'est, mais monnaie courante. On a tous fréquenté ici, ou quelques-uns, des hommes ou femmes politiques tels Nicolas Sarkozy ou Martine Aubry, par exemple, pour citer ces deux-là, qui passaient quand même pas mal de temps en privé à critiquer les adversaires de leur propre parti. La différence aujourd'hui, c'est que ces faits-là sont reproduits, enregistrés via les réseaux sociaux. La mésaventure est arrivée à Laurent Wauquiez, on s'en souvient, à Lyon, il y a quelques mois.
Là, il n'y a pas d'enregistrement de Benjamin Griveaux.
Mais les faits, les propos ne sont pas contestés en tout cas, puisqu'il s'en est excusé. Et le problème de Benjamin Griveaux, c'est que on dit il a cassé son image, mais il n'avait pas une bonne image déjà. Il faut bien le savoir, c'est que Benjamin Griveaux, il part déjà de très bas. Il a un challenge devant lui. Alors aujourd'hui, son image, elle est à construire. Elle n'est pas à détruire parce qu'elle n'est déjà pas bonne. Donc je ne suis pas sûr personnellement qu'une élection, elle se construit sur une image. Elle se construit sur un projet, sur l'idée que vous donnez, que vous allez avoir éventuellement des compétences pour diriger une ville, et de ce point de vue peut-être sa campagne apportera des éléments, mais aujourd'hui effectivement ça tombe mal, et je dirais que ce qui tombe le plus mal c'est effectivement la prise de position de Bertrand Delanoë dont il se réclamait et dont il espérait même, je le sais qu'il affirme officiellement son soutien et que donc quelque part il désavoue son ancienne première adjointe Anne Hidalgo. Ça aurait été un petit événement, il attendait cette chose-là pour l'automne et manifestement c'est mal parti. Maintenant comme disait Yannick, la campagne est longue. Donc il part de bas, mais la marge de progression est grande.
La machine à perdre, on en avait parlé pour d'autres partis, Jean-Daniel Lévy, c'est ça le risque de La République En Marche à Paris?
Ah oui, de toute façon c'est toujours le risque lorsqu'on part à une élection. Mais ce qui est assez frappant, c'est qu'il y a des reproches qui sont effectués à l'égard d'Anne Hidalgo, avec le côté parfois un peu froid, un peu cassante, un peu distante, et même parfois en tension avec les Parisiennes ou les Parisiens, et que ça risque également de coller à la peau du candidat de La République En Marche, Monsieur Griveaux, d'autant plus que peut-être que les Parisiens s'en sont pas encore tout à fait rendus compte de son caractère un peu trempé, mais que les journalistes, on en a eu l'illustration, ne se privent pas de le rappeler en permanence. C'est-à-dire qu'avant même qu'ils découvrent complètement ce qu'est le candidat, ils commencent accompagnés d'une réputation qui est une réputation plutôt en fait critique, notamment de la part des observateurs de la vie politique, et que le premier moment en fait où on parle de lui précisément dans le cadre de la campagne électorale, c'est sur cette capacité à pouvoir, si vous me permettez l'expression, sortir la sulfateuse à l'égard en fait de ceux qui sont censés venir le rejoindre et le soutenir au final, et dont on va peut-être voir même d'ailleurs les effets à l'égard de Monsieur Villani, qui n'a pas encore indiqué précisément ce que serait sa position dans le cadre de la campagne électorale et qui a laissé le suspense jusqu'à, si je ne me trompe pas, le début de l'automne.
Alors je vois deux doigts qui se lèvent dans ce studio parce que Villani, ça intéresse, y aura-t-il une candidature Villani? Vous patientez parce qu'on déroule les grands titres à 20h40, on revient à ça juste après. Solène Cresson.
Si les décorations ont été attribuées à tort, elles seront retirées, Christophe Castaner précise, alors que 9000 membres des forces de sécurité doivent être décorés et parmi eux, certains policiers mis en cause dans des violences pendant les manifestations des Gilets jaunes, dont deux commissaires de l'affaire Geneviève Le Guay à Nice. Bertrand Delanoë sort de son silence numérique après 2 ans de silence sur Twitter pour démentir les propos de Benjamin Griveaux. Il assure que l'ancien maire de Paris est d'accord avec lui sur sa stratégie pour les élections de l'an prochain. Nul n'est autorisé à parler en mon nom, a recadré Bertrand Delanoë. Un incendie en ce moment dans le massif de la Gardiole près de Montpellier. 120 sapeurs-pompiers sont mobilisés. Des pompiers des Bouches-du-Rhône arrivent en renfort. Il y a eu plusieurs départs de feu. La sécheresse s'étend en France avec 62 départements concernés par des restrictions d'eau. Un tribunal antiterroriste marocain condamne à la peine de mort 3 hommes pour l'assassinat de 2 touristes scandinaves. Elles avaient été décapitées en décembre dernier au Maroc au nom du groupe État islamique alors qu'elles étaient en randonnée dans le massif de l'Atlas qui attire chaque année des dizaines de milliers de touristes. Et puis interdiction de se baigner à Étretat en Seine-Maritime après un incendie dans la station d'épuration la nuit dernière. Le préfet interdit la baignade et toute activité nautique sur les plages de la commune mais aussi à Yport, au Tilleul et Vatteto-sur-Mer.
France Info.
20h, 21h, les informés.
Frédéric Carbone.
Et on reprend la conversation là où on l'avait laissé avec Jean-Daniel Lévy sur cette hypothèse Cédric Villani, qui ne s'est pas rallié évidemment à Benjamin Griveaux, qui a fait savoir qu'il attendait septembre. Jenny Calimi, vous êtes la première à avoir levé le doigt. Villani candidat, vous y croyez ?
Je voudrais dire juste une chose d'abord. Pardonnez-moi, j'aurais dû vous laisser la parole lors d'abord, mais je vais y aller. Benjamin Griveaux a beau avoir une mauvaise image, effectivement, mais il ne faut pas dire et répéter qu'il n'avait aucune personnalité, aucune notoriété. Il avait au moins une image.
On n'a pas dit que personne n'avait aucune notoriété. Il avait une image négative, il avait une forte notoriété, mais que dans l'opinion, et notamment dans l'opinion parisienne, pour l'instant, ça ne passe pas très bien.
Autant pour moi, il avait quand même, au-delà de tout ce qui a pu se passer au sein de la République En Marche, l'atout tout de même, j'allais dire, quantitatif par rapport aux autres candidats, qui a été quand même la pratique d'un ministère, quel qu'il soit, la pratique gouvernementale, et ça quand même, ça donne du poids à une personnalité, mais les propos qu'il vient de tenir montrent qu'il peut manquer de contrôle, même si c'était, rappelons-le,
une discussion privée,
mais c'est vrai que ça ternit terriblement la stature, avec un petit S peut-être, mais la stature qu'il pouvait avoir. Juste sur Villani, alors la question peut se poser, si jamais Benjamin Griveaux était, comme on dit, débranché assez vite par La République En Marche. Est-ce que Villani pourrait être une sorte de plan B, comme Juppé avait pu l'être éventuellement du temps de Fillon, sans qu'évidemment les deux affaires n'aient rien à voir les unes avec les autres, entre Griveaux et Fillon. Je ne suis pas sûre que ce soit à l'ordre du jour et que lui-même, Villani, en ait envie. Et deuxième point, en revanche, qui se dit, c'est que elle est finaude, Madame Hidalgo, et c'est un compliment, c'est pas du tout péjoratif. Madame Hidalgo, qui voit un petit peu la fragilité de la candidature ou des candidatures potentielles au sein de la République En Marche, dit-on, est en train de faire des approches affirmées et serrées, et vis-à-vis de Villani, qui a été collaborateur de sa campagne en 2014.
Président de son comité de soutien.
Voilà, exactement. Également aussi auprès du Granson, qui lui était chiracien, elle l'est toujours d'ailleurs, et qui pourrait lui aussi se désolidariser, pourquoi pas, de la République En Marche.
Alors, Laure Breton, Cédric Villani, plan B ou plan lui-même tout seul, même si Benjamin Griveaux continue ?
Je crois qu'il est assez fantasque pour réservé effectivement des surprises en septembre. On a même dit, ou en tout cas le microcosme a même bruissé au moment du remaniement provoqué par François de Rugy, en disant finalement,
absolument,
La République En Marche et le gouvernement s'enlèveraient une belle épine du pied en le nommant secrétaire d'État à la transition écologique, puisque donc ça l'empêcherait de se présenter. Je ne sais pas du tout ce qu'il va faire. Il s'est pris au jeu finalement assez tard de la candidature à Paris.
Il l'empêcherait de se présenter ou de rallier à Hidalgo.
En tout cas, ce qui était assez rigolo le soir du 14 juillet, effectivement, vous parliez de rassemblement autour de Benjamin Griveaux. Ce qu'elle fait, elle, visuellement, c'est cette espèce de rassemblement, de laisser venir à soi, et c'est très rigolo. Le 14 juillet, c'est le feu d'artifice. Elle a beaucoup d'invités politiques. Et qui y avait dans le public du feu d'artifice d'Anne Hidalgo ? Il y avait Hugues Granson et il y avait Cédric Villani, avec qui elle a fait une photo sur la Tour Eiffel.
Ça va être bien les municipales. Je voudrais qu'on parle d'un autre marcheur de la première heure, ministre de l'Intérieur lui-même, Christophe Castaner, en se posant la question, est-ce qu'on peut être impliqué dans une enquête sur des violences policières, sans connaître évidemment le résultat, et recevoir à titre exceptionnel la médaille de la sécurité intérieure gilet jaune. 9000 personnes l'ont eu, cette médaille, après ces samedis de mobilisation et d'affrontement. Parmi les policiers récompensés, il y a notamment un capitaine entendu dans l'enquête sur le décès d'une personne âgée à Marseille, touchée par une grenade lacrymogène alors qu'elle fermait sa fenêtre, et le commissaire niçois, responsable des opérations qui ont conduit à la blessure sévère de Geneviève Le Guéanis. Là aussi, enquête en cours. On écoute Linda Kebab, qui est du syndicat SGP Police. On écoute ce trouble.
Il y a une provocation, clairement, parce que si on estime que ces personnes-là étaient méritantes alors qu'il y a enquête s'agissant de leur action, eh ben, peut-être le mieux aurait été d'attendre les conclusions de la justice, et dans l'éventualité où la justice les aurait totalement dédouanées, à ce moment-là, les récompenser. On a des blessés qui sont certainement pas récompensés, on a des collègues qui se sont pris des armes lourdes sur la tête qui ne sont pas récompensés. Donc oui, c'est une provocation du ministère de l'Intérieur, et nous, on en a marre de devoir payer, encore et toujours, ces messages politiques, ces guéguerres politiques, parce qu'au final, c'est notre chair qui est touchée. Donc oui, cette médaille, c'est la médaille de la honte. Elle n'est vraiment pas la médaille du mérite, plutôt dans des attributions de copains.
Médaille de la honte, dit Linette Kebab, syndicaliste policier.
J'invite en beaucoup de copains, 9000 personnes. Même.
Ça posait les deux questions, et le choix et l'opportunité du moment.
Je ne sais pas si c'est une provocation, mais c'est clairement une bévue, puisque le ministre a dit cet après-midi qu'en cas de condamnation ou d'acte contraire à la déontologie, je cite, les médailles éventuellement seraient retirées. Mais il faut bien voir que Christophe Castaner, il est écartelé. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez la droite, Éric Ciotti et Christian Jacob, qui le traitent de maillon faible, qui le traitent d'homme totalement dépassé par la situation dimanche dernier sur le 14 juillet, donc de quelque part un ministre de l'Intérieur qui ne tient pas ses troupes, qui est laxiste. Et de l'autre côté, on lui reproche finalement de couvrir les exactions qui ont pu être commises contre les Gilets jaunes. Donc si vous voulez, il peut en rajouter. C'est vrai que depuis des mois, il a voulu se montrer une sorte de paratonnerre pour les policiers. Jamais il n'a condamné le moindre acte policier. Il s'est rendu dans les congrès des syndicats. Alors là, nous avons entendu Linda Kebab, mais d'autres syndicats, chez Alliance par exemple, le considèrent comme un ministre populaire. C'est un ministre qui est plutôt aimé des policiers et qui surjoue finalement cette couverture de tous les actes, y compris ceux qui peuvent être plus que discutables, pour casser cette image que lui renvoie par ailleurs la droite sur son éventuel laxisme.
Excès de zèle, Jean-Daniel Lévy.
Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, d'un point de vue d'opinion, les Français sont très clairement du côté
de l'ordre
et très peu du côté des manifestants. On peut voir, c'est assez intéressant ce qui s'est passé à Nantes avec le jeune Steve, si je ne me trompe pas, en fait, qu'on ne retrouve pas depuis de nombreux jours.
Ça faisait un mois hier.
À la suite notamment d'une charge policière, en tout cas c'est comme ça que ça a été évoqué. L'émotion dans l'opinion est quasi nulle, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune mobilisation qui existe, il n'y a pas de tension qui existe, même la gauche en fait est quasiment pas présente en fait comme étant une revendication à l'égard de ce qui pourrait apparaître comme étant une bavure policière. On peut rappeler que ça s'est effectué dans le cadre de la fête de la musique et que dans ce contexte-là, il y a aujourd'hui en fait une forme de latitude de la part des Français à l'égard de ce qui peut apparaître ou ce qui a pu apparaître par le passé comme étant des exactions de la manière des forces de l'ordre et qui aujourd'hui ne l'est absolument pas. On peut même rappeler, il y a un peu plus longtemps, lorsque Rémi Fraisse est décédé à la suite notamment en fait, d'une action de la part de la police, qu'il n'y a eu aucun et aucune émotion de la part des Françaises et des Français, ce qui n'était absolument pas le cas au cours des années 80, voire même au cours des années 90. Donc il y a aujourd'hui une forme de confiance à l'égard de la police qui est extrêmement forte et qui fait que même lorsqu'il y a des comportements qui sont des comportements limite, voire même un peu en dehors de la limite, il y a une forme de mansuétude assez forte de la part des Françaises et des Français, notamment à droite, et notamment auprès d'un cœur de l'électorat qui intéresse le gouvernement et le président de la République.
Et en même temps, Laure Breton, on voit la base, alors Linda Kebab, représentant d'un syndicat de police, disant, c'est toujours les mêmes, on honore des gradés, puis
petit syndicat qui a appelé les éventuels récipiendaires de médailles venant de leur syndicat à refuser les médailles. Oui, je sais pas, je m'interroge, la République des copains, il y a cinq personnes, il y a cinq cas qui posent vraiment un problème. C'est pour ça que je rejoins totalement Jeff Wittenberg sur est-ce que c'est de la légèreté, comment ces listes ont été constituées. C'est pas Christophe Castaner qui a biffé les noms un par un, donc il y a pour le moins eu un problème dans la remontée des informations. Mais là aussi où je rejoins Jeff, c'est que on dit toujours que le ministère de l'Intérieur c'est un ministère de la cogestion. Il y a l'impulsion politique et il y a la cogestion avec les syndicats de police. Et là on est complètement. Je pense que les réactions que vous avez diffusées et celles dont je faisais mention sont minimales, en fait. Il y a trop à perdre de la part de Christophe Castaner d'avoir les syndicats contre lui. Donc je pense que c'est une erreur. Je pense qu'effectivement, il retirera les médailles si les enquêtes qui arrivent aboutissent. Et c'est un autre chiffre aussi. Peut-être qu'il l'a minimisé, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'était aussi un problème. Mais nous, on a publié ce matin le vrai chiffre des enquêtes en cours contre des forces de police. C'est pas 280, c'est 400. Est-ce que c'est pareil? Il dit on n'avait pas les chiffres des enquêtes de police qui étaient menées localement par les unités de forces de l'ordre localement. ou est-ce qu'il a voulu minimiser les débordements lors des manifestations des Gilets jaunes, on n'en sait rien. En tout cas, ça fait un peu amateurisme à tous les étages, ça c'est sûr.
Yannick Halimi, je vous donne la parole dans une minute, 20h50. C'est l'heure de l'info, les grands titres, Solène Cressant.
Le haut-commissaire Jean-Paul Delevoye l'assure, si tout le monde part à 62 ans, le système est déséquilibré. Il faut inciter les Français à partir à la retraite à 64 ans. Réaction ce soir sur le plateau de France 2. Il a remis son rapport au gouvernement ce matin, qui doit servir de base pour la prochaine réforme des retraites. Elle entrera en vigueur normalement en 2025. Le nettoyage des écoles aurait eu lieu, incendie ou pas, le premier adjoint à la mairie de Paris rassure. Après les révélations de Mediapart qui affirment que les taux de concentration en plomb étaient trop élevés, la ville de Paris assure qu'il y aura de nouvelles mesures et que les résultats seront rendus publics. L'Élysée a dépassé son budget en 2018. Selon un rapport annuel de la Cour des comptes, la présidence de la République a dû puiser plus de 5 millions d'euros sur la réserve. Explication, un accroissement de l'activité de la présidence. Un homme de 34 ans mis en examen est écroué dans l'Allier. Il est soupçonné de tentatives de viol et d'enlèvement de mineurs de moins de 15 ans. Ces dernières années, il avait fait plusieurs tentatives d'enlèvement près de Vichy. Il a reconnu les faits en garde à vue. Des saumons ou des truites affaiblies par les canicules à répétition. Inquiétude sur France Info de l'Agence française de biodiversité. Alors qu'un nouvel épisode de canicule arrive dès la semaine prochaine en France, cela vaut surtout pour les petits cours d'eau touchés par la sécheresse.
France Info.
20h, 21h, les informés.
Frédéric Carbone.
Le dernier chapitre donc des informés de ce jeudi où l'on continue d'évoquer ce que cette syndicaliste policière appelait les médailles de la honte, des gradés de la police qui reçoivent une médaille alors qu'il y a des enquêtes sur des opérations qui dirigeaient. Yannick Halimi, est-ce que c'était pas plus simple d'attendre que les enquêtes soient terminées?
Ah, moi je pense que c'est plus simple, et malgré les enquêtes d'opinion d'en parler Jean-Daniel Lévy qui demande de l'autorité, je pense que Christophe Castaner a fait une faute politique, rien d'illégal hein, bien évidemment, mais une faute politique sur le fond et d'opportunité. Il se serait grandi s'il s'était comporté comme quelque chose de plus grand, de plus fort que le premier flic de France, comme on appelle le ministère de l'Intérieur, depuis des décennies. Parce que n'oublions pas tout de même que le pays, alors je ne veux évidemment pas le transformer en pays dans une situation de guerre civile, mais le pays se remet, en tout cas traverse 7 mois d'une crise dont on n'est peut-être pas encore sorti. C'est un pays qui n'est pas encore stabilisé, où la confiance, on parlait des régimes de retraite, ça passe par peut-être une plus grande illégalité, mais c'est aussi une confiance dans les institutions, une confiance dans une certaine justice et moralité. Et encore une fois, même si ce n'est pas illégal, Christophe Castaner aurait pu, comme vous dites, attendre et voir finalement suspendre ses décorations. Un autre élément qui ne dépend pas de Christophe Castaner, mais qui était extrêmement attendu et en tout cas stigmatisé par notamment les avocats des Gilets jaunes, ce sont ces fameuses enquêtes.
Les 400 dont parlait Laurent Breton, 280
officiellement. Qui s'accumulent sur le bureau notamment du procureur de Paris, Rémy Heitz, et qui pour le moment ne débouche pas. Il y a quelques semaines, Rémy Heitz a dit que certains de ces dossiers devaient être déférés à la police. Si c'était le cas, et si ils sont fondés bien évidemment à l'être, il serait temps qu'ils le fassent, parce que, encore une fois, même si l'opinion publique et les Français demande de l'autorité, il demande aussi une certaine justice, et on a quand même l'impression aujourd'hui qu'il y a eu énormément d'interpellations hein, de la part des Gilets jaunes, peut-être beaucoup moins de condamnations qu'on aurait pu s'attendre, mais que les policiers sont plutôt exclus et sont plutôt des privilégiés.
Il y a des enquêtes, mais qui sont
bloquées. Donc encore une fois, Christophe Castaner, et je pense qu'Emmanuel Macron n'avait pas besoin de ça, Christophe Castaner étant un des premiers encore une fois fidèle d'Emmanuel Macron, n'avait pas besoin de cet acte au moins politiquement répréhensible.
J'invite Amber, est-ce que le symbole derrière, c'est pas cette volonté à tout prix justement d'en finir avec les Gilets jaunes? Est-ce que ça dit pas, c'est fini les Gilets jaunes?
Je ne sais pas s'il y a encore une fois un symbole et une volonté. Ce dont je suis sûr par contre, c'est que je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, Yannick. Je pense qu'au contraire, dans l'esprit du gouvernement, non seulement de Christophe Castaner, mais d'Edouard Philippe et d'Emmanuel Macron, ce qui compte encore encore une fois, c'est que l'ordre règne et l'affaire des médailles, elle fait moins de dégâts que dans leur esprit, que les images qu'on a vues dimanche et ou qu'on a vues le 16 mars, qui se sont conclues par l'éviction d'un préfet en 2 jours et cela a été très vite plié. Et depuis que Didier Lallement, un préfet fort critiqué par ailleurs, mais néanmoins est en place à la préfecture de police de Paris, il n'y a plus eu de journée de chaos sur les Champs-Élysées comme on a pu
en connaître. Je vous interromps, en quoi remettre des médailles à des personnalités, quelles qu'elles soient, ou des fonctionnaires, quels qu'elles soient, quels qu'ils soient, qui sont font l'objet d'une enquête, c'est rétablir l'ordre.
Pas du
l'ordre,
tout.
C'est d'abord une certaine confiance dans les institutions, et là, je pense que ça peut fragiliser cette confiance qui est déjà extrêmement faible.
S'il y a une erreur, les médailles seront suspendues, ce n'est pas ce que je veux dire.
Mais pourquoi de les avoir données?
Je pense que ce n'est...
Des attribués.
Apparemment, c'est une dévue. Je voudrais juste dire, non pas mon point de vue, mais le point de vue de l'exécutif, c'est qu'aujourd'hui, Christophe Castaner, il garde la confiance d'Emmanuel Macron.
Ah ben, j'ai pas dit il a couvert,
ses soirées en discothèque. Il a couvert son erreur de jugement à la Pitié Salpêtrière. Je peux vous dire que, autant que je le sache, Christophe Castaner n'est pas menacé malgré cette bévue.
Il ne faudrait pas que ce dossier de médaille monte en mayonnaise dans l'opinion publique, parce que là, il y aurait peut-être beaucoup plus de fondement que sur les homards de François de Rugy.
Alors, Jean-Denis Lévy nous disait que ça ne risquait pas de monter beaucoup dans l'opinion publique. En un mot, Laure Breton, je retente la question. Est-ce que dans le point de vue de l'Élysée, il y a aussi cette question de les gilets jaunes, c'est fini. Cette parenthèse-là, elle est terminée. On essaie à tout prix de passer à autre chose.
Ben, on a vu le 14 juillet que c'était pas complètement terminé. Donc, je sais pas. Ils sont persuadés d'avoir fait tout ce qu'il fallait avec les mesures pouvoir d'achat, avec hier on a présenté un projet de loi sur les maires ruraux. On fait tous les gestes qu'il faut. Mais que la parenthèse soit terminée, on a vu qu'ils avaient une capacité de buzz médiatique ou de nuisance politique qui était encore assez
encore une fois, je donnais pas mon avis. L'Élysée souhaite que Jean-Daniel.
Oui, il y a un mouvement qui est un mouvement qui s'étiole, et surtout en fait un soutien de l'opinion qui est plus faible que par le passé. Enfin, quand on regarde, c'est peut-être aussi un des enjeux pour le gouvernement et le président de la République. C'est indépendamment des mobilisations, qui fait des mobilisations sporadiques, dont on peut voir parfois les effets, notamment lors du 14 juillet, que c'est un mouvement qui est moins massif que par le passé, et puis surtout en fait une attitude de la part des Françaises et des Français qui était quand même extrêmement derrière, en faveur des gilets jaunes au cours de l'automne et jusqu'au début de l'hiver, et qui par la suite a quand même assez nettement évolué avec des Français qui sont beaucoup plus critiques à l'égard de la mobilisation telle qu'elle s'opère actuellement.
Eh bien écoutez, je vous remercie à tous les quatre. Vous avez 30 secondes, parce qu'on a beaucoup parlé, pour nous donner votre conseil, coup de cœur pour les auditeurs qui ont du temps pour lire, aller au ciné, aller voir une expo. 30 secondes. Laure Breton, vous commencez, vous avez beaucoup travaillé.
On s'approche des 50 ans des premiers pas sur la Lune. On connaît les noms, sont devenus très célèbres, des trois hommes qui ont marché sur la Lune. On connaît moins celui de Joanne Morgan, qui était la première femme ingénieure de Cap Canaveral, et qui est la seule qui était dans la salle lors du décollage de Saturne V, qui allait faire poser Apollo 11.
50 ans après, il était temps de lui rendre hommage. Jean-Daniel Lévy, 10 secondes.
Alors, 50 ans, moi c'est 100 ans. Les 100 ans du Tour de France et 100 ans surtout non pas des gilets jaunes, mais en fait du maillot jaune. Il y a un formidable ouvrage de Béatrice Houchard qui s'appelle Le Tour de France et la France du Tour chez Kahneman Lévy. Pour tous ceux qui n'aiment pas le Tour de France et qui n'aiment pas la politique, c'est vraiment à recommander.
Yannick Halimi.
Alors moi je recommande un film qui s'appelle Tel Aviv on Fire, si certains arrivent encore à le voir sur les écrans, qui est tourné par un Israélien arabe, qui est derrière un aspect de comédie. En fait, mais est une analyse profonde et bienveillante des relations entre les Arabes, les Israéliens et les Palestiniens à Tel Aviv.
J'habite en mer.
S'il joue encore près de chez vous, sans conteste, le film Rocketman, non pas tant pour le film que pour les chansons d'Elton John qui sont magnifiquement interprétées. Et puis, bien sûr, le Tour de France sur France Télévisions ce week-end. Oui, le Tour Malais, ça sera magnifique.
Et sur France Info également. Merci à tous les quatre. Yannick Halimi, rédactrice en chef adjoint, Le Parisien, Laure Breton, Libération, La Une, oui.
La Une de demain, comment être écolo en vacances?
Libération, La Une.
Je suis partie, la manchette n'était pas faite, mais ce sera sur la CAN et la finale entre Algérie et Sénégal.